Lyon demain, en mode doux.
Les mobilités sont devenues à Lyon le sujet qui fâche. Évoquer la voiture, le vélo ou les transports en commun peut très rapidement enflammer les conversations, y compris lors d'un dimanche en famille. Lyon a connu de gros travaux pendant 6 ans pour tenter de rééquilibrer les différents modes de déplacement. Difficile de faire comprendre aux automobilistes qu'ils ne seraient plus jamais les rois de la chaussée et qu'il faudrait désormais partager la voirie avec des voies lyonnaises, des trottoirs élargis et parfois même se voir interdire certains secteurs comme la presqu'île et en particulier la rue Grenette. Alors que la nouvelle métropole présidée par Véronique Sarcelli voudrait faire marche arrière, de nombreuses associations sont vent debout, parmi lesquelles, pour la cité humaine, les droits du piéton. Nous avons rencontré son président, Pierre Rosada.
Il y a deux piliers. Assurer la sécurité des piétons, sur les trottoirs, sur les places piétonnes, et bien sûr, ce que l'on oublie trop souvent, sur les traversées des piétons, puisque les piétons ne peuvent pas que marcher sur les trottoirs, que marcher sur les places piétonnes, ils doivent traverser la chaussée. L'autre mission, l'autre pilier, j'ai envie de dire, c'est pour la cité humaine. Pour la cité humaine, c'est développer un cadre de vie urbain, agréable pour tous et donc pour les piétons. Car ne l'oublions pas, les piétons en ville sont totalement majoritaires. J'ai bien dit majoritaires. Un cadre de vie, c'est quoi? C'est avoir, bien évidemment, parfois, des bancs où on peut s'asseoir, où on peut lire, où on peut manger un casse-croûte. C'est avoir des toilettes publiques en grand nombre, gratuites. C'est avoir des points d'eau potable où on peut simplement appuyer sur un bouton pour se désaltérer ou se laver le visage. C'est avoir de la végétation pour faire en sorte que la chaleur soit calmée, etc., etc. Donc c'est aussi avoir une ville plus humaine sans rejeter qui que ce soit. Car je tiens à préciser une chose qui est très importante. Nous ne sommes pas, nous n'avons jamais été, nous ne serons jamais une association anti-voiture. Jamais. Nous sommes pour tous les modes de déplacement. Mais comme la voiture a été reine en ville, dans les villes occidentales, durant les années, à partir des années 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, ça fait environ 40 ou 50 ans que la voiture a été reine presque exclusivement, eh bien, il fallait, à un moment donné, recadrer sa place. Et la recadrer, c'est rééquilibrer. Si on accepte de recadrer la voiture pour qu'elle soit moins dominante, moins écrasante, inévitablement, cela ne peut que profiter aux autres modes de déplacement. Les piétons, mais aussi, ne l'oublions pas, le complément du piéton. Car le complément du piéton n'est pas le vélo. Le complément du piéton, c'est le transport en commun. Quand les distances s'avèrent trop longues pour marcher à pied, parce qu'on n'a pas le temps, parce que ça pourrait nous fatiguer, on prend les bus, on prend les métros, on prend les tramways. Donc nous sommes des ardents défenseurs des transports en commun. Les cyclistes, très utiles, parce que les cyclistes, finalement, déjà ça fait du bien pour le corps de pédaler. Et puis les cyclistes, ils ont un autre avantage, c'est qu'ils ne polluent pas. Donc nous sommes pour le vélo, à condition, à la stricte condition, sine qua non, que les cyclistes, tous, respectent le code de la route. C'est fondamental. Et le code de la route dit deux choses très simples. Les cyclistes ne doivent pas stationner sur les trottoirs. C'est pour ça que nous sommes pour l'implantation des arceaux sur la chaussée. Et surtout, les cyclistes ne doivent pas rouler sur les trottoirs et sur les autres espaces qui sont dévolus aux piétons.
Votre association est devenue très médiatique ces dernières années, beaucoup plus qu'avant. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le piéton est malmené aujourd'hui? Il n'est pas considéré dans la métropole?
Disons que la mandature qui vient de s'achever, 2020-2026, elle a eu quand même des effets bénéfiques pour les piétons. On ne peut pas le contester. Des trottoirs ont été élargis en assez grand nombre. La vitesse a été nettement apaisée, puisque je rappelle que la ville de Lyon est passée à ville 30, que cela a fait tache d'huile, hein, puisque maintenant on a plus de 30 communes de la métropole sur la 58 qui sont à ville 30. L'air est quand même moins pollué par la pollution chimique des voitures. Donc les piétons n'ont pas été oubliés, certainement pas. Mais j'ai presque envie de dire, pas plus que sous les mandatures Gérard Collomb. N'oublions pas ce qu'a fait Gérard Collomb à travers les berges du Rhône, les rives de Saône, le tunnel Mode Doubs, etc. Donc les piétons n'ont pas été oubliés pendant la mandature 2020-2026, la mandature écologiste. Mais il faut le dire, et nous l'avons dit, les grands gagnants de la mandature 2020-2026 sont les cyclistes, incontestablement. Donc maintenant, nous sommes le plus visible médiatiquement, parce qu'il est vrai que des petites tensions sont apparues et que le thème des mobilités est devenu un thème très important, pour ne pas dire parfois majeur. À notre regret, quelque part, parce qu'il y a tellement d'autres thèmes de compétences municipales et de compétences métropolitaines. Mais les mobilités, visiblement, sont devenues un thème majeur sur lequel des gens ne veulent rien lâcher dans leur voiture, alors que, je le rappelle, dans énormément de cas, pas la majorité, mais dans beaucoup de cas, les gens sont seuls dans leur voiture. Il faut bien regarder les automobilistes, il faut bien se concentrer sur les voitures, et je peux assurer ce que je dis, il y a la plupart du temps des gens tout seuls dans leur voiture en semaine. Le week-end, c'est un peu moins parce que les gens partent parfois un peu loin en famille, mais en semaine, dans la journée, ils sont seuls dans leur voiture. Ils prennent de la place, ils polluent, souvent ils puent, et donc ils cancérisent. Et donc, je le dis, il fallait et il faudra continuer à recadrer la voiture sans l'éliminer de la ville, car la voiture est un mode de déplacement parmi tant d'autres.
Qu'est-ce qu'il faut faire alors pour concilier tous les modes, que ce soit vélo, voiture, piéton, transport en commun ?
Bien sûr, les élus sont les élus. Après tout, les élus se sont fait élire sur un programme. Ce programme, nous comprenons fort bien qu'ils ne doivent pas l'oublier. Pour autant, il faut aussi de la concertation. Et là, il faut le dire, il y a eu une grande contre-vérité, et j'ose le dire, un grand mensonge politique de la part des opposants en 2020-2026. Ils ont réussi, parce qu'ils ont réussi, tellement les écologistes sont assez mauvais en communication, ils n'ont pas su défendre leur bilan de communication et de participation. Et il y a eu un grand mensonge politique. Ils ont réussi à faire croire à des gens que tout avait été brutal, que tout était parti d'en haut, que les citoyens n'avaient pas été consultés. C'est faux. C'est un mensonge total. Il y a eu énormément, mais énormément de concertations dans des réunions, dans les réunions publiques, même parfois dans certains arrondissements, pour une rénovation d'une petite place minuscule. On demandait aux gens de venir et de dire leur opinion. Donc, il y a eu énormément de concertations. Je vois par exemple pour le projet Apaisement Presqu'île ou Presqu'île à vivre. Il y a eu 6 grandes réunions publiques au Grand Lyon. 6 où tout le monde, mais tout le monde a pu s'exprimer. Les adversaires, les farouches adversaires, ils étaient là, ils ont pu s'exprimer, comme le CIL Centre Presqu'île avec M. Bernard Colombot, comme la DPL. Donc chacun a pu s'exprimer, même parfois avec des mots très forts. Et puis il y a eu aussi les partisans. Nous étions là avec d'autres, mais chacun a pu s'exprimer, a pu défendre son point de vue. Et a pu tenter de corriger un petit peu, par-ci, par-là, des petites erreurs.
Est-ce qu'il y a eu des inflexions véritables ?
Alors, véritables, fondamentalement, non, puisque nous n'étions pas là pour construire un projet, puisque ce projet avait été élaboré et présenté aux électeurs en 2020. Nous étions là pour dire si nous étions d'accord ou pas d'accord et pouvoir améliorer sur certaines parties, certaines choses. Mais il faut voir aussi pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je le dis, moi j'ai assisté aux 6 grandes réunions publiques du Grand Lyon. Les opposants, c'était leur droit de s'opposer. Mais ils ne sont pas venus ici, dans ces réunions, pour essayer de construire, d'améliorer. Ils sont venus pour détruire, pour empêcher de faire ce qui allait être fait. Nous y sommes allés pour, bien sûr, approuver globalement le projet Apaisement Presqu'île, mais pour tenter de l'améliorer, pour tenter, en fin de compte, de faire en sorte que tout le monde, ou presque tout le monde, soit quand même satisfait. Et finalement, on y est arrivé. Parce qu'à la dernière des grandes réunions, à la 6e, qui était un peu le compte-rendu, le bilan, finalement, grande a été ma surprise, je dois l'avouer. Eh bien, quand même, un des présidents des associations de commerçants, dont malheureusement je n'ai pas noté le nom au moment même où il a pris la parole, eh bien, il a dit qu'il était totalement pour la ZTL et pour le projet. Ce qui a beaucoup embêté les hommes politiques de droite, il faut le dire, hein, qui ont essayé de faire croire, qui sont presque parvenus en faisant croire que tous les commerçants de la ZTL ou tous les commerçants de la presqu'île étaient contre. Là, on en a eu la preuve. On a une personne qui s'est levée, qui a pris le micro et qui a remercié pour la concertation et qui a dit qu'ils étaient pour, en fin de compte, ce qui était en train d'être préparé. Donc, il faut voir que tous ceux qui ont proposé, tous ceux qui sont venus dans un esprit constructif et non pas destructif, quelque part, ont obtenu gain de cause. C'est ça, la concertation. Et moi, maintenant, ce que j'attends, ce que notre association attend, c'est que Mme Sarcelli, qui, elle aussi, accuse les écologistes au pouvoir d'avoir été dans la brutalité, ce qui est faux, j'attends qu'elle ne soit pas dans la brutalité. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on entend ? Qu'est-ce qu'on lit dans les médias ? On lit que finalement, elle décide toute seule de revoir la ZTL, elle décide toute seule de rouvrir la rue Grenette, elle décide toute seule de rouvrir la montée du chemin neuf. Que va devenir le comité de suivi ? Le fameux comité de suivi qui a organisé ces 6 séances. Aura-t-elle, Mme Sarcelli, le courage politique de poursuivre ce comité, d'inviter les, bien sûr, ceux qui la soutiennent, les associations, certains conseils de quartier, mais aussi ses adversaires. Est-ce qu'elle aura ce courage politique ? Permettez-moi d'en douter. J'espère que, comme elle est démocrate, j'espère qu'elle reprendra ce comité de suivi et qu'elle organisera une autre réunion, une 7e ou une 8e autre réunion au Grand Lyon pour que chacun puisse dire ce qu'il a à dire. Idem pour la mairie du 5e. Monsieur Thomas Rodigos, qui lui aussi accuse ses adversaires, enfin, en disant ceux qui l'ont précédé de ne pas avoir fait de concertation. Ben voilà, il est élu, il dit, moi dans mon programme, j'ai dit que je rouvrirai la montée du chemin neuf, eh bien, elle sera rouverte. Ok, mais est-ce qu'il va faire lui aussi une réunion en mairie du 5e, comme il y a eu deux grandes réunions en mairie du 5e pour présenter cette montée du chemin neuf? Ah, ça n'a pas été facile à l'époque pour les élus, pour Mme Georgel, pour Mme Perrin, pour M. Fabien Bagnon. Mais ils étaient là, ils ont eu le courage de venir, le courage politique et personnel de venir affronter tous ceux qui étaient contre. Et bien sûr, il y a aussi des gens qui étaient pour, comme nous. Mais ils ont eu ce courage politique. Est-ce que M. Thomas Rudigoz aura ce courage politique? On verra. Mais permettez-moi d'en douter.
Alors, Grenette, et la montée du chemin neuf, on est rentré dans le vif du sujet. Pourquoi c'est pas négociable, ça? Où est-ce que c'est négociable? Est-ce qu'il y a des ouvertures possibles?
Il y a toujours des ouvertures possibles, mais il faut quand même aussi, avant de voir les ouvertures possibles, il faut voir quelles sont les finalités de ces ouvertures. Finalement, les choses sont simples. Est-ce que l'on rouvre Grenette aux automobilistes, aux voitures? Si c'est oui, comment faire? De telle heure à telle heure, comment contrôler? Il faudrait des bornes escamotables. Donc, est-ce qu'on rouvre ou est-ce qu'on ne rouvre pas? Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que la rue Grenette, c'est pas un sujet à lui tout seul. La montée du chemin neuf peut être un sujet à lui tout seul. Pas la rue de Grenette. La rue Grenette est liée à la piétonnisation de la partie nord de la rue de la République. Ne nous leurrons pas. Madame Sarcelli ne veut pas le dire encore. Pour nous, nous ne sommes pas dupes. Si la rue de Grenette est rouverte aux automobilistes, inévitablement, très rapidement, chacun se rendra compte que ce n'est pas tenable pour tous les bus qui sont en double sens, tous les taxis qui sont en double sens et les voitures qui donc ne seraient que dans un seul sens. Il va y avoir des embouteillages gigantesques, monstrueux. Et que va dire Madame Sarcelli? On le devine d'avance, il faut vraiment être un stupide pour pas le deviner. Elle va dire, ben voyez, ça ne marche pas. Donc il faut remettre les bus dans la partie nord de la rue de la République. Et donc le projet de piétonnisation sera mort et enterré. Donc il faut bien se dire une chose, la rouverture de la rue de Grenette aux automobilistes, c'est la mort, c'est l'enterrement en première classe de la piétonnisation de la rue de la République dans sa partie nord, ce qui va empêcher de finir l'unité urbaine de la rue de la République. Parce que nous, c'est aussi pour ça que nous soutenons cette piétonisation. Bien sûr, pour rendre une aire piétonne, pour créer une aire piétonne sympathique, encore plus sympathique que la partie centrale et que la partie sud. La partie centrale qui va de Cordeliers à la place de la République et la partie sud qui va de la place de la République à la rue de la Barre. Dans la partie nord, il faut piétoniser et faire que ce soit encore plus agréable, encore plus moderne. Mais aussi, il faut le dire, on achèvera l'unité urbaine de l'artère majeure. Je vais vous dire une chose, dans énormément de villes européennes, il y a une artère majeure. Il n'y a pas que les Champs-Élysées à Paris ou que la rue de la République à Lyon. Dans énormément de villes, chacun pourra vérifier. Il y a toujours une unité urbaine dans cette artère majeure. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On a quand même deux tiers, un tiers. On a une partie nord, avant bien sûr la transformation. Qu'est-ce qui se passait? Il y avait des bus qui passaient et des taxis. Mais il y avait 10 rues, j'ai bien dit 10 rues, et chacun pourra vérifier, 10 rues transversales ouvertes constamment à la circulation automobile. Ce qui fait que les piétons, les bus, les taxis étaient sans cesse freinés parce qu'ils avaient peur que les automobilistes ne respectent pas le stop ou une balise qui leur disait qu'ils devaient laisser passer. Donc il y avait véritablement un capharnaüm total dans cette partie nord. Et là, on pourrait achever l'unité urbaine, faire une grande aire piétonne avec des bancs, de la végétation, des bornes fontaines, faire quelque chose, mais vraiment de moderne, de sécurisé et surtout d'écologique.
L'autre axe, c'est le chemin neuf, donc cette descente de Saint-Just au Vieux-Lyon. Là, c'est un cas qui est un petit peu différent, qui a évolué au fil des années, qui est aujourd'hui à 100% mode doux, plus les résidents, plus les ayants droit, comme on dit. Est-ce qu'on peut remettre du trafic automobile? Apparemment, ça empêcherait peut-être les cyclistes de faire des abus et de rentrer dans les murs.
Alors, sur la montée du chemin neuf, en effet, le problème est un peu différent parce qu'il n'est pas lié à autre chose comme pour la rue de Grenette. Alors, la montée du chemin neuf, il faut voir qu'elle n'est pas à la montée. Elle est à la descente. Et ça, c'est très important. Parce que si elle était à la montée, comme la montée Saint-Barthélemy, là, il faudrait faire extrêmement attention. D'ailleurs, je me demande si mon association, les droits du piéton, aurait soutenu le projet à 100% si la montée du chemin neuf avait été à la montée. Mais pourquoi est-ce qu'on a soutenu ce projet? On a soutenu ce projet parce que la montée du chemin neuf, pour les automobilistes, c'est dans le sens de la descente. Or, je demande à chacun de vérifier. Quand on est au tout début de la montée du chemin neuf, c'est-à-dire non pas en bas, mais en haut, puisqu'on est dans la descente, c'est-à-dire quand on est au croisement de la rue des Farges et de la montée du chemin neuf, on est à 500 mètres, j'ai bien dit à 500 mètres, de la montée de Choulan. À pied, on a pour un quart d'heure. En voiture, on a pour 5 minutes. Pourquoi les automobilistes ne prennent pas la montée de Choulan? Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas prendre la montée de Choulan pour se retrouver finalement où cela? Ils se retrouvent à Saint-Georges. Ceux qui prennent la montée du chemin neuf se retrouvent à Saint-Jean. Ceux qui prennent la montée de Choulan se retrouvent à Saint-Georges. Alors soit ils prennent le pont Kitchener-Marchand, soit ils vont tout droit et se retrouvent quai Fulcheron. Quand j'entends le maire du 5e, monsieur Thomas Rudigoz, dire que depuis que la montée du chemin neuf est fermée aux automobilistes des non-résidents, les commerçants, le vieux Lyon est en crise, ou le vieux Lyon a souffert. Mais le vieux Lyon, ce n'est pas que Saint-Jean. Le vieux Lyon, c'est Saint-Paul, Saint-Jean et Saint-Georges. Or, quand les voitures, elles arrivent au début du quai Fulcheron, qu'est-ce qui les empêche de s'arrêter? Il y a énormément de places de stationnement sur le quai Fulcheron. Énormément. Qu'est-ce qui les empêche de s'arrêter et d'aller faire des achats dans les commerces du quai Fulcheron ou de la rue de la Quarantaine? Rien du tout. Donc, l'argument qui dit que fermer les voitures à la montée du chemin neuf, ça fait souffrir des commerçants du vieux Lyon, non, de Saint-Jean. Mais, vous savez, l'économie, c'est une sphère. Quand on enlève de l'argent de côté, on en met dans d'autres. Parce que de toute façon, quand on doit acheter une baguette de pain, qu'on l'achète au commerçant, au boulanger qui a été interviewé par Madame Sarcelli lors de sa visite de terrain, ou qu'on l'achète dans un autre boulanger, de toute façon, on achète sa baguette de pain. Donc il faut bien se dire que c'est vrai, tout aménagement, mais je vais vous dire une chose, déplacer un arrêt de bus, vous déplacez un simple arrêt de bus. Il y a des perdants et des gagnants. Ceux qui avaient cet arrêt de bus devant chez eux, ils étaient tout contents. Vous le déplacez, ils ne vont pas être contents parce qu'ils vont devoir marcher 50 ou 100 mètres. Mais ceux qui vont avoir maintenant le nouvel arrêt de bus devant chez eux, ils vont être contents. Pour le commerce, c'est pareil. Vous faites des aménagements, c'est vrai. Certains commerçants peuvent en pâtir un peu, mais d'autres commerçants vont en profiter. Est-ce qu'on a mesuré l'impact de ce qui se passe? Par exemple, les automobilistes, sachant qu'ils ne peuvent plus prendre la montée du chemin neuf et qui parfois, c'est vrai, il faut le dire, faisaient peut-être certains achats dans la rue des Farges, dans ce micro-quartier, et qui ne le font plus. Mais est-ce qu'on a pu mesurer, est-ce qu'on peut le faire sur peut-être que tous ces automobilistes qui ne passent plus par la montée du chemin neuf, peut-être qu'ils font leurs achats ailleurs, soit sur le plateau du 5e, à la place Bénédicte Tessier, soit, comme je le disais, quai Fulcheron ou à la rue de la Quarantaine. Ça, ce n'est pas mesuré. L'économie, je le répète, c'est une sphère incontournable, fermée. On tire un tiroir, on ouvre un tiroir, on en ferme un autre. Donc, il faut arrêter de faire croire que si on fait un aménagement de voirie et que certains commerçants en souffrent, point final. Oui, on peut faire un aménagement de voirie, certains commerçants peuvent en pâtir, il faut le dire, mais d'autres commerçants, dans d'autres endroits, peuvent en profiter.
Alors, dernier grand dossier de ce début de mandature, c'est évidemment la rive droite. Ça aussi, ça aurait été un bel espace pour les piétons.
Oui, ça aurait été un très bel espace pour les piétons, pour le cadre de vie. Bon, Madame Véronique Sarcelli, sans consulter qui que ce soit, là encore, qui est brutal? Qui n'a pas le courage politique d'organiser des grandes réunions ou même une grande réunion pour mettre au courant les associations, les conseils de quartier, les riverains? Elle prend sa décision, elle est élue, je suis élu, je fais ce que je veux. Donc à partir de là. En effet, Madame Véronique Sarcelli, malheureusement, a visiblement supprimé ce grand projet et rive droite. Il faut tenir compte de cela. On verra dans 6 ans. Les élections, c'est tous les 6 ans. 6 ans, c'est long, mais ça passe vite. On verra si Mme Sarcelli sera reconduite dans 6 ans. Peut-être que la nouvelle majorité métropolitaine reprendra le projet. En tout cas, il faut l'espérer.
Il y a une consultation, je ne sais pas si vous avez vu, qui s'intitulait « Ça bloque, on agit », qui était justement à l'initiative de la métropole. Qu'est-ce que vous pensez des résultats où on voit que les principales demandes sont plus de sécurité pour les vélos, pour les piétons, et finalement, les automobilistes, on les entend pas trop dans cette consultation?
Tout d'abord, il faut le dire, la métropole a consulté, c'est bien. Non mais c'est bien, voilà. Ils consultent, c'est quand même un acte de démocratie citoyenne. Sur les résultats, je dois dire que c'est un double échec pour la métropole, pour Mme Sarcelli, pour M. Pierre Oliver, pour M. Gilles Gascon, c'est-à-dire ceux qui sont en charge de la mobilité et de la voirie. Pourquoi? Déjà, le nombre de participants. Quand on voit les moyens de la métropole, il y a eu, si mes chiffres sont bons, 4000 participants, ce qui n'est pas rien. Mais 4000 participants, c'est plus de 4 fois moins que la consultation qu'il y a eu pour la rue Grenette organisée par la ville de Lyon. 17 200 participants. Là, on est à moins de 4000. Premier échec. Ils n'ont pas réussi à faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de participants. Et puis, deuxième échec. Alors qu'ils pensaient, bien évidemment, il fallait lire les questions. Les questions étaient, orientées. Je n'ose pas dire, et je n'emploie pas le terme de tronquer ou de truquer, mais bien orientées. Ils espéraient, à travers cette consultation, faire en sorte qu'il y ait une bronca d'automobilistes qui déversent tout leur fiel et qui leur demandent de rénover, de reprendre, de rouvrir tout. Le résultat, c'est un échec. c'est qu'en fin de compte, deux tiers, deux participants sur trois, ce sont les modes doux, ce sont les cyclistes et les piétons. C'est-à-dire que finalement, ils demandent plus de sécurité, un meilleur cadre de vie. Les automobilistes sont 25%, c'est si mes chiffres, les chiffres qu'on m'a fournis sont bons, ce n'est pas rien, il faut aussi en tenir compte, parce qu'il faut toujours tenir compte de tout le même. Mais à un moment donné, même si on tient compte de tout le monde, il faut aussi prendre des décisions. Or là, c'est quand même clair. Si Mme Sarcelli ne se rend pas compte que deux tiers des gens qui ont répondu, ce sont les cyclistes et les piétons, j'ose le dire, où est la vraie démocratie ?